10h42 minutes dans le point de max à Boulevard 1021-418-971-1021, le numéro pour nous rejoindre en tout temps en studio. Vous pouvez nous écouter au blvd.fm avec la web radio, avec l'application mobile Boulevard 1021, vos haut-parleurs intelligents à la maison aussi. C'est toujours une possibilité, tout comme les bonnes vieilles ondes FM, évidemment. C'est une grosse journée en politique fédérale avec la mise à jour économique qui sera présentée aux alentours de 16h par le ministre Champagne. Bon, évidemment qu'en politique fédérale, il y a un dossier qui retient énormément d'attention depuis au-dessus d'un an. C'est les négociations avec les États-Unis. Là, ces jours-ci, on parle beaucoup des renégociations de la CEOM, entre autres avec la première ministre provinciale du Québec, Christine Fréchette, qui présentement est du côté des États-Unis. Et il y a aussi le Parti libéral du Canada qui a adopté une motion hier pour se permettre d'aller chercher une majorité à l'intérieur des différents comités du côté du gouvernement à Ottawa. Et pour parler de tout ça, on a le plaisir de rejoindre la leader parlementaire du Bloc québécois, Christine Normandin, qui est au bout du fil. Madame Normandin, bonjour.
Bonjour, M. Larouche.
Le Parti libéral du Canada, comme je le disais, qui a adopté une motion hier pour aller chercher cette majorité à l'intérieur de différents comités. Puis j'ai l'impression que pour M. et Mme Tout-le-Monde, là, on entend beaucoup parler du fait que le gouvernement fédéral de Mark Carney est devenu majoritaire du côté de la Chambre des communes avec le nombre de députés. C'est quoi la nuance qu'il y a entre cette majorité-là et celle qu'on est allé chercher hier, cette majorité-là en comité? Qu'est-ce que ça change dans la dynamique?
Vous l'avez un petit peu dit, là, c'est peut-être quelque chose qui peut passer un peu sous le radar pour monsieur et madame tout le monde. J'ai fait un discours là-dessus en chambre hier. J'ai commencé en disant, on va se le dire entre nous, là, c'est pas quelque chose pour lequel les gens vont se battre dans les autobus. Donc, ce qui se passe, c'est que techniquement, quand la chambre est majoritaire, les comités doivent refléter la composition de la chambre. En temps normal, ça se décide au début d'une législature, donc tout de suite après l'élection, les partis se rassemblent, vont voir ensemble de quelle façon on peut attribuer un nombre de sièges spécifiques à chaque parti dans les comités pour que ça reflète la composition de la Chambre. Ça se fait de consensus, généralement ça passe par la suite ensemble avec une motion de consentement unanime. Mais là, on se retrouve dans une situation complètement nouvelle qu'on n'a jamais connue auparavant, à savoir qu'un gouvernement passe d'une situation de minoritaire à majoritaire entre deux élections. Fait que là, c'est complètement nouveau. Et ce que ça aurait dû permettre, c'est qu'on discute encore une fois entre les partis pour voir de quelle façon on peut modifier la composition des comités. Mais là, le gouvernement a rompu avec la tradition qui veut que ce soit fait de façon consensuelle, puis a déposé sa motion, puis il nous a pas parlé, il a pas demandé nos opinions, malgré qu'il y a juste une semaine, là, à la suite des trois élections partielles, il a dit oui, on va être collaboratif, on va demander aux autres partis dans tous les dossiers c'est quoi leur point de vue, on va le prendre en considération. Ben, non seulement ils sont arrivés avec cette motion-là sans avis, mais en plus ils l'ont passé avec un baillon. Donc ça change la formation des comités et ça change la façon dont les partis d'opposition pourront s'assurer que le gouvernement soit redevable, soit imputable, rende des comptes. Puis je vous donne, il va falloir m'arrêter parce que je pourrais vous en parler longtemps si vous avez des questions spécifiques, mais je vous donne quelques exemples. Souvent, le gouvernement va dire, on a besoin d'une majorité en comité parce qu'il y a des choses qui bloquent. Mais présentement, les deux seuls comités où les choses bloquaient, c'était à cause des libéraux qui faisaient ce qu'on appelle un filibuste. C'est de l'obstruction parlementaire. Là, ils parlent sans arrêt pour qu'on puisse pas voter des motions. Ils faisaient un filibuste pour bloquer deux demandes du Bloc québécois, une sur le port de contrecœur, parce qu'on voulait avoir des documents pour prouver la rentabilité. Le gouvernement n'arrête pas de nous dire oui, ça va être rentable comme projet. Ben parfait, montrez-nous les documents. Oh non, on ne veut pas vous les montrer. Et l'autre demande qu'on avait, c'était pour avoir un état réel de la situation avec les logiciels pour lesquels il y a des dépassements de coûts astronomiques. On a souvent parlé de Curam, on a parlé de Phoenix, on a parlé d'Arrive-Can. Même chose, le gouvernement nous dit non, on ne veut pas vous montrer les chiffres et c'est eux qui bloquent en comité. Donc, c'est sûr que ça va avoir une incidence sur cet aspect-là, le fait que les partis d'opposition l'opposition auront peut-être besoin d'être plus imaginatifs pour réussir à obtenir des comptes du gouvernement.
Le Parti libéral, qui est passé majoritaire en Chambre grâce aux transfuges, c'est oui, il y a eu les partiels, mais en bout de ligne, c'est grâce aux différents transfuges qui sont passés des conservateurs ou du NPD qui sont passés aux libéraux qu'on a atteint cette majorité-là. Et puis déjà, là, il y a des gens qui disaient « OK, mais là, c'est un peu antidémocratique. Là, il y a cette nouvelle façon de faire-là pour se donner une majorité dans les comités. » Est-ce que vous considérez que c'est antidémocratique, la façon de fonctionner du gouvernement Carney actuellement?
Mais on fait l'analyse en deux temps, je vous dirais. On peut critiquer la façon dont le gouvernement a acquis sa majorité, puis on l'a dit, là, on n'est vraiment pas d'accord avec la façon dont ça s'est fait, d'aller chercher des transfuges qui ont été élus sous une bannière. On pourrait dire, par exemple, ils auraient dû siéger comme indépendants. Ça, c'est un débat. Mais l'autre aspect, c'est de dire, ben OK, même si on n'est pas d'accord avec la façon dont ils se sont achetés une majorité ou sont grappillés ou sont allés chercher leur majorité, ben force est de constater malgré tout que le gouvernement est majoritaire. Et partant de ça, on se dit, bon, même si on n'est pas d'accord avec la façon, le constat est que le gouvernement est majoritaire et effectivement, ça doit se refléter dans les comités. Donc, nous, on n'a pas fait des gorges chaudes sur on devrait pas changer la formation des comités. On en a plus sur la façon dont ça s'est fait, l'absence de consultation, sur le nombre de députés aussi que les libéraux s'ajoutent, parce que ça, c'est une chose qui est à noter aussi, ça peut ne pas faire une différence aux yeux de Madame Tout-le-Monde, mais ils rajoutent deux députés libéraux alors qu'un seul aurait fait le travail pour que la formation des comités soit majoritaire, puis ça aurait plus ressemblé à la proportion en chambre. Ils nous disaient, ben on veut juste pas que les présidents libéraux dans les comités aient à trancher en cas d'égalité. Ben pour éviter les égalités, une bonne façon de faire, c'est de discuter avec des membres de l'opposition dans les comités pour avoir une voix de plus, par exemple. Donc, la façon de faire est plus problématique qu'autre chose pour nous, même si on peut effectivement s'interroger sur est-ce que c'est une majorité légitime qu'ils sont allés chercher ensemble. Mais ça, c'est un débat qui reste intéressant. Et la question peut se poser dans l'autre sens, par contre, puis ça aussi, c'est un reproche qu'on a à faire au gouvernement. C'est que s'ils perdent leur majorité, c'est pas impossible, là, je le disais un peu à la blague hier, physiquement ensemble, là, Stephen Guilbeault, il est assis assez proche de la porte, mais s'il rentre d'autres conservateurs ou s'il y a encore des annonces sur le pétrole et le gaz, ben peut-être que la porte, il va la prendre au sens figuré comme au sens propre. Les libéraux pourraient perdre leur majorité, mais il n'y a pas de mécanique automatique qui permettrait qu'on revienne à une situation minoritaire en comité. Et les libéraux nous ont dit « Ah, faites-nous confiance ». Bon, on a vu qu'est-ce que ça donne là depuis une semaine après qu'ils nous aient dit de leur faire confiance pour leur collaboration. Ben ils nous ont passé le bulldozer avec un baillon. Donc, on a un petit peu plus de misère à leur faire confiance qu'ils reviendraient en arrière et qu'ils redonneraient une composition minoritaire au comité s'ils perdaient leur majorité en chambre, ce qui n'est pas impossible. 3 ans, ça peut être long. Il y a peut-être du monde à l'interne qui vont commencer à dire que ouais, ils se reconnaissent plus dans ce parti-là qui était censé être plus progressiste, plus environnemental, plus consultatif aussi. Là, c'est le cercle décisionnel est plus restreint. Puis on l'entend. Il y a des députés libéraux une fois de temps en temps qui nous disent ouais, c'était quelque chose sous Trudeau, mais là, c'est une petite coche de plus sous M. Carney.
Je vais prendre la porte que vous venez de m'ouvrir en parlant de prendre des portes. Il y a quelqu'un qui a pris la porte dans les dernières heures pour rejoindre Québec solidaire, Alexandre Boulris, qui quitte le NPD. Fait que là, il rejoint votre équipe, l'équipe des souverainistes. Est-ce que vous y croyez à Alexandre Boulris qui est souverainiste?
Moi, je disais à la blague hier, mais il y a peut-être un petit fond de vérité là-dedans. Ben c'est ça que ça fait passer 15 ans sur la colline parlementaire à Ottawa. Ça rend indépendantiste. Mais au-delà de ça, c'est sûr qu'on on va malgré tout toujours se réjouir là quand il y a des nouveaux souverainistes qui joignent la grande famille, comme disait M. Parizeau, que le dernier entré laisse la porte ouverte. Restera quand même des questions intéressantes à lui poser, à savoir comment il concilie son passé à même un parti qui était le plus centralisateur sur la colline parlementaire, là, qui voulait envoyer le plus de pouvoir possible à Ottawa, et sa nouvelle étiquette de souverainiste qui, techniquement, devrait être contre la centralisation des pouvoirs. Donc, il y a peut-être cette transition-là qu'il devrait expliquer. Ça va faire des questions intéressantes à lui poser. Mais d'un autre côté, tant mieux. Si on ajoute des souverainistes dans l'équipe, on n'en aura jamais trop.
Le ministre Champagne qui va dévoiler vers 16h sa mise à jour économique, à quoi s'attend le Bloc québécois?
En fait, on n'a pas beaucoup d'écho encore. Là, présentement, il y a un huis clos. Les fonctionnaires expliquent à des députés qu'est-ce qui se passe dans l'énoncé, dans la mise à jour économique. Nous, c'est plus nos demandes qui étaient connues. Et il y a des choses qu'on aimerait voir. On va le savoir un peu plus tard si ça a été accordé ou pas. Dans le contexte de la crise économique, le Bloc a énoncé quelques demandes qui n'étaient pas des surprises. On le fait depuis assez longtemps. On le voit avec les entreprises qui en arrachent de plus en plus, les nouveaux tarifs aussi qui ont été annoncé par la Maison-Blanche. Maintenant, tout ce qui contient de l'aluminium ou de l'acier, c'est pas sur la partie qui contient de l'aluminium ou de l'acier, c'est sur la valeur totale du bien qu'il y a une taxe qui est imposée. Ça fait extrêmement mal à nos entreprises qui, malgré que M. Carney avait dit il y a un an comme un sauveur qu'il allait gérer les tarifs, c'est pire que c'était il y a un an. Une des choses que nous, on demande pour contrer ça, c'est de mettre sur pied une forme de subvention salariale qui pourrait permettre de répondre spécifiquement aux besoins, par exemple, des PME, parce que les PME manufacturières au Québec sont les plus frappées par la crise des tarifs. Donc, on souhaiterait qu'il y ait une forme de subvention salariale qui soit mise en place pour éviter des pertes d'emplois, pour pouvoir garder l'expertise le temps que la situation se règle, qu'il y ait peut-être une nouvelle mouture de la CEUM, ça, c'est pas fait encore, ou qu'il y ait un changement de garde à la Maison-Blanche. Bref, qu'on donne au moins un peu d'air aux entreprises. Ça, c'est une de nos demandes, mais il y en a quelques-unes d'autres. Par exemple, une réforme. Enfin, là, les libéraux le promettent depuis toujours, l'ont jamais fait. Une réforme de l'assurance-emploi dans un contexte économique difficile. On aurait besoin de ça, s'assurer qu'il n'y ait plus de trous noirs. Une hausse de la pension de vieillesse pour les 65 à 74 ans, ça fait partie de nos demandes aussi. Leur pouvoir d'achat est important. C'est de l'argent qui retourne dans l'économie. Donc, c'est utile en temps de crise. On a quelques demandes comme ça. On va voir qu'est-ce qu'il y aura dans les annonces, mais il n'y a pas nécessairement grand-chose qui a coulé à date. On va avoir un peu plus d'informations à 4 heures. On saura peut-être aussi avec plus de détails ce qui expliquerait que le déficit serait un peu moins élevé que prévu. Ça, c'est peut-être une des promesses là, de surprise que le ministre Champagne nous a faites, mais on a peut-être l'impression que c'est parce que le PIB a augmenté, une révision statistique de Statistique Canada qui viendrait un peu aider le gouvernement plutôt qu'une meilleure gestion des finances et moins de dépenses. Donc, on pourra analyser ça finement une fois qu'on aura tous les détails, mais pour l'instant, on espère que nos attentes seront... nos vœux seront exaucés dans la mise à jour économique, mais on va le savoir seulement un petit peu plus tard.
En terminant, Mme Normandin, pensant là, la première ministre du Québec, Christine Fréchette, est du côté de Washington pour préparer les renégociations de la CEUM. Est-ce qu'on appuie ce geste-là de la nouvelle PM du Québec ou on considère que ce serait plus la job de M. Carney de mener ça puis que les premiers ministres provinciaux devraient rester dans leur province puis regarder ce qui se passe évidemment de près, mais sans se positionner en leader nécessairement?
Bien, je pense que c'est le fait que Mme Fréchette se rende à Ottawa, c'est un rappel que l'économie du Québec est différente de celle du Canada. Puis quand M. Carney nous disait il y a un an, il faut une seule économie, pas 13, il faut défendre l'économie canadienne et pas 13 économies différentes, on n'adhérait pas du tout à cette façon-là de voir les choses. Et le fait que Mme Fréchette se déplace, bien, ça permet de faire la promotion de la culture québécoise, alors qu'on sait que sur le comité consultatif de M. Carney, il y a personne pour représenter la culture québécoise. Ça permet de s'assurer que la question de la gestion de l'offre soit bien véhiculée, qu'on en parle et qu'on dise que c'est un non négociable. Donc, ça permet aussi de parler du tissu économique spécifique du Québec, d'aller rappeler aux Américains que les tarifs font mal, oui, au Québec avec l'industrie manufacturière, mais également aux Américains avec lesquels le Québec a de bons liens économiques. Donc, que ce soit une voie qui parle pour le Québec spécifiquement, c'est sûr que nous, on voit ça d'un bon œil parce qu'on a souvent l'impression que quand le Canada le fait, généralement, c'est pas pour le Québec qu'on parle à l'extérieur, c'est davantage pour la finance de Toronto ou l'industrie pétrolière des prairies. Donc, tant mieux si on a une voix exclusive au Québec qui vient porter les dossiers qui sont proches de nos intérêts.
Christine Normandin, leader parlementaire du Bloc québécois, un gros merci.
Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous.
Salut, bye-bye, à la prochaine. Donc, Christine Normandin, leader parlementaire du Bloc québécois, qui nous a expliqué, entre autres, qu'est-ce que ça change là, que le Parti libéral du Canada ait adopté une motion pour devenir majoritaire à l'intérieur de différents comités. Ça complique un petit peu le travail des différents partis d'opposition. Là. C'est ce que ça vient changer dans le concret. Vous pourrez entendre l'entrevue sur le blvd.fm et l'app mobile boulevard 102.1. Kadbachan, tu t'en vas profiter du beau soleil?
On va essayer un peu, oui.
Oui, puis mais là, il y a comme des petits nuages un peu qui se sont ajoutés. Mais ça, c'est juste un petit voile. Ça va. Il fait encore super beau. Je vous rappelle que c'est un maximum de 19 degrés qu'on attend aujourd'hui, généralement ensoleillé.
On va le prendre.
Merci beaucoup, Kat.
Merci.
Dans les prochaines minutes, le grand retour d'Audrey Pinchot dans l'Open Mic 10h57.
Salut, Max. L'Open Mic